Allez, on passe tout de suite à la question de la semaine que j'aurais dû faire en première partie, mais on est parti trop loin. Oui, tu veux ou tu veux pas. Quel dilemme pour les banques centrales, hein, et pour la Fed en particulier. Bah, soit elle remonte encore les taux comme l'a fait la Banque Centrale Européenne, soit elle marque une pause. Alors, avec une première question, Anne-Sophie Hatzi, l'inflation, déjà, pourquoi elle n'arrive pas à baisser plus rapidement que ça? On est quand même surpris, on a eu 6% d'inflation aux États-Unis. Bon, alors ça, les gens ont vu le verre à moitié plein en se disant, bon, c'est pas mal, finalement, ça continue à baisser, mais ça baisse très peu.
Alors moi, je pense que ce qu'il y a un lien direct avec la croissance économique. On s'attendait à avoir un ralentissement de la croissance économique beaucoup plus fort. Et finalement, il y a du ralentissement, mais c'est beaucoup moins fort que prévu. Rappelez-vous, l'année dernière, on parlait du risque de récession aux États-Unis. Aujourd'hui, on n'est absolument pas du tout sur cette situation. Même en Europe, on en parlait, donc on n'est pas du tout dans ce cas-là. Et c'est vrai que quand on avait une inflation aussi élevée, le fait d'avoir un fort ralentissement de la croissance, c'est ce qui est le plus efficace pour avoir un impact direct sur l'inflation. Alors bien sûr, ils ont commencé à augmenter les taux plus tôt que nous, avec en plus ce que Jérôme Powell avait expliqué, je préfère mettre en cause la croissance, mais on lutte contre l'inflation, donc c'était quand même là aussi un message assez important. Et finalement, bah, la croissance résiste, parce qu'on a ces politiques budgétaires, je l'ai dit depuis le début, qui font qu'on a toujours beaucoup...
Que l'inflation, elle va continuer à résister ou
elle va normalement se décélérer. Hein, normalement, on devrait avoir un ralentissement de la hausse des prix. Pas une baisse des prix, mais un ralentissement de la hausse. Okay. Donc ça, c'est prévu cette année. Mais plus tard, pourquoi? Parce qu'on a quand même encore... Alors, Europe, États-Unis, toujours différent. Hein. Les États-Unis, on a toujours beaucoup de tensions sur le marché du travail. On le voit, on a toujours ces aides qui continuent d'irriguer l'économie. Donc on va rester dans cette situation quand même d'inflation assez élevée. Par contre, en Europe, hein, c'est assez différent. Donc bien sûr, la Banque Centrale a augmenté les taux et va sûrement faire une pause. On a là aussi pas de situation de récession.
Vous voyez une pause là ?
Oui, une pause après. L'Allemagne sur. Alors aux États-Unis, il peut y avoir peut-être encore une ou deux hausses d'ici la fin de l'année, mais je pense que ça va là encore beaucoup dépendre de la croissance économique et de ce qu'on va voir au deuxième trimestre.
Denis Ferrand, est-ce qu'on n'est pas trop pressé? C'est-à-dire, est-ce qu'on se dit il faut tout de suite que l'économie ralentisse, l'inflation ralentisse, mais est-ce qu'en fait, par exemple, on n'est pas en train de se tromper à nouveau sur l'économie en disant, elle n'a pas ralenti comme prévu, donc finalement, tout va bien, mais en fait, peut-être qu'elle va ralentir plus fort que prévu dans 3 ou 6 mois, parce qu'il se passe quand même des trucs qui sont un petit peu inquiétant. Hein. J'osais parler tout à l'heure de l'impact de la crise bancaire, mais pas que ça.
C'est vrai qu'il y a une forme d'impatience. Probablement, on aurait voulu voir l'inflation ralentir beaucoup plus vite sous l'effet de la révision de la croissance. D'ailleurs, l'OCDE a sorti sa nouvelle prévision de croissance. Ils ont révisé de 1 point la croissance américaine en 2023.
Exactement.
Ils l'ont relevé de 1 point. Donc on voit bien qu'il y a un changement de pied qui est quand même majeur. C'est très rare d'avoir des révisions de cette ampleur. Et en fait, sur l'inflation, on a oublié que ça met du temps pour changer de rythme, parce que fondamentalement l'inflation a changé de nature désormais. C'est plus l'inflation conjoncturelle du début, celle qui était liée aux pénuries, aux désajustements de l'offre et de la demande que l'on avait en sortie de Covid. C'est une inflation de second tour désormais. C'est une inflation qui passe désormais beaucoup plus par les revenus, salaires et marges. Et ça, c'est un changement qui est intervenu. Il y a eu un papier de Philip Lane, le chief économiste de la BCE récemment, qui montrait l'importance de la revalorisation des marges au niveau de la zone euro quant à l'évolution de l'inflation. Donc vous avez les effets de second tour qui sont là. Ça va mettre du temps maintenant à ralentir. D'autant que l'inflation, elle s'est déportée. Elle n'est plus sur les biens maintenant. Ce qui fait l'inflation, c'est sur les services. Vous êtes à 7,2 d'inflation.
Et ça serait pas la même chose sur la croissance? C'est-à-dire, est-ce qu'on n'est pas, on s'est trompé dans le timing? C'est-à-dire, on a voulu que ça ralentisse tout de suite avec une récession en 2023, mais est-ce que finalement on n'a pas une récession qui peut démarrer un peu plus tard dans...
Oui, qui peut démarrer un peu plus tard, mais qui viendra de toute façon. On aura de toute façon un ralentissement, parce que même s'il y a une réaction des revenus, elle est quand même plus faible que le prélèvement qui s'opère sur les prix, et en particulier en Europe. C'est un peu moins vrai aux États-Unis, où l'inflation c'est de la redistribution de revenus à l'intérieur de l'économie. Mais pas
Anne-Sophie, vous voyez la récession ou pas du tout?
Moi, je vois moins la récession, parce que même quand vous regardez les prévisions de l'OCDE ou du FMI pour 2024, les chiffres sont pas mauvais.
Ils se sont plantés. Donc, en 2023, ils ont relevé, donc ils pourraient très bien relever de 2%.
Tout à fait. Mais déjà, quand vous calculez les acquis de croissance, vous n'êtes pas dans un phénomène de récession. Donc ça, c'est quand même déjà la base. Et en Europe, c'est quand même vraiment l'énergie et l'alimentaire. Vous voyez que l'énergie, on attend quand même à ce que ça se tasse à partir du 2 ou 3e trimestre, parce qu'il devrait y avoir un ralentissement de la croissance.
C'est la
prix du pétrole. Donc là, il y a une corrélation directe. Il y a une corrélation directe. L'alimentaire, moins, mais ça contribue moins à l'inflation. Donc c'est vrai qu'en Europe, comme on est vraiment sur des inflations importées, avec une situation de guerre qui reste, ça se voit pas dans les chiffres. C'est ça qui est assez intéressant.
Ou pas?
quand on regarde les acquis, tout ce qui a été quand même injecté par les gouvernements depuis 3 ans, enfin, à un moment, on dit on est surendetté, etc. Il faut quand même bien que ça ait des effets. C'est toujours ce que je dis. On ne peut pas être autant endetté et avoir aucun impact économique.
Donc, dans un premier temps,
on a massivement aidé les entreprises. Second temps, les ménages. Ben là, en effet, on ne décroche pas. Et tant mieux, parce que vu tout ce qu'on a investi, ce qu'on s'est endetté, il faut quand même que ça ait des résultats. Donc, décrochage, mais plus tardif.
Un petit mot, Denis.
Sur les banques centrales, justement, par rapport. Comme l'inflation a changé de nature, la Banque centrale n'a pas d'autre choix que de continuer de jouer sur l'inflation. Et ce qui est très important...
Vous voyez pas de pause, vous ?
Donc là, le relèvement, enfin, je ne croyais pas une seconde que la BCE ferait en dessous de 50.
D'accord.
Et donc, elle était obligée de faire 50, mais en même temps, elle était obligée de dire, je vais rassurer sur les liquidités. Pourquoi ? Parce qu'au mois de juin, vous avez 520 milliards à peu près de liquidités qui viendront disparaître des banques. Ben, la BCE, ce qui était très important hier, c'est qu'elle a dit... On va aménager ce qui se passe sur les TLTRO l'année prochaine. Donc, elle doit jouer à la fois sur la lutte contre l'inflation et sur la lutte contre la stabilité financière. C'est pas l'un ou l'autre, elle doit jouer sur les deux.